FM, connecté à votre région.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Thomas Antoine. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être notre invité de ce jour. Vous dirigez la société AEV Motors qui est située à Saint-Éloi. Alors, comme traditionnellement dans cette émission, on va commencer par vous laisser présenter cette entreprise qui est la vôtre.
Merci beaucoup. Alors AEV Motors, c'est une société avec deux composantes distinctes. La composante AEV Motors, où nous sommes des spécialistes de l'électrification des véhicules. On développe notamment des motocross électriques. Et l'entité Mobishop 58, qui est une entité commerciale et on fait de l'achat et de la revente de mobilité électrique. Donc des trottinettes, des vélos, des motos, enfin tout ce genre de choses super, super sympa et super fun.
Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur liste au Père Noël, j'ai l'impression qu'il y a des possibilités.
Exactement, et en plus pour tous les âges, donc des plus jeunes aux plus expérimentés d'entre tous.
D'accord. Au niveau de votre équipe, vous êtes combien justement sur ces activités-là ?
On est 4 au total dans la société.
Oui.
Une équipe complémentaire, multidisciplinaire, donc moi-même de formation ingénieur.
Oui.
On a un expert digital, un expert marketing et un second ingénieur qui nous a rejoint à partir de septembre.
D'accord. Et pour la partie commerciale actuelle, vous avez, c'est vous qui vous y collez ou vous avez d'autres salariés plus commerciaux, on va dire ?
Non, pour l'instant, on s'y colle nous-mêmes voilà, pendant la phase de développement, mais à terme, on souhaite recruter une équipe spécialement dédiée.
D'accord. OK. Au niveau de votre clientèle, on retrouve plutôt des particuliers, plutôt des entreprises ?
Alors, ça dépend vraiment de l'activité dont
c'est
on
ça.
Parle. Sur l'activité électrification, c'est plutôt des professionnels.
Oui.
Sur l'activité commerciale, en fait, c'est un magasin. Donc, c'est plutôt des particuliers qui viennent nous acheter des trottinettes pour leurs déplacements du quotidien, ou bien des draisiennes pour leurs enfants, ou bien des motos pour eux-mêmes.
D'accord. Et sur l'activité, donc, développement, électrification, vous faites de l'électrification de tout type de véhicule ou vous avez des développements particuliers ?
On est spécialisé dans le off-road. Donc off-road, c'est tout ce qui est non-routier en fait.
Non-routier, sur-circuit donc ?
Sur-circuit, effectivement, ouais. Ou bien pour des applications stationnaires, typiquement les travaux publics ou ce genre de choses.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de réalisation ?
Donc des motocross, ça je l'ai dit, des quads qui sont vraiment utilisés pour du loisir sur piste fermée.
Oui.
On travaille à l'électrification de karting.
D'accord.
Donc, ça c'est vraiment fun. Et puis sur des applications tout terrain, c'est la transformation de dispositifs existants qui ont une motorisation thermique, comme des compresseurs d'air par exemple.
Oui.
Remplacer le moteur thermique par une motorisation électrique plus silencieuse et...
D'accord. Et donc là, vous avez plutôt des entreprises qui sont dans les domaines des travaux publics, peut-être ?
Oui, tout à fait. Ben, c'est un constructeur, en fait, qui nous a sollicité pour ce travail.
D'accord.
De la même que pour les kartings, c'est les constructeurs qui nous sollicitent la plupart du temps.
D'accord. Donc vous travaillez directement pour les constructeurs ?
Oui.
C'est indécent de demander quelques noms ou pas ?
Ouais, non, on va les garder.
On les garde, c'est secret ?
On les garde pour nous.
D'accord.
Ouais.
OK. Donc, cette activité, vous l'avez depuis combien de temps ?
La société a été créée en octobre 2022.
D'accord, donc ça
fait,
jeune.
Ouais, ça fait un an. En revanche, on a travaillé sur le concept d'électrification depuis 2020 maintenant, donc à travers un projet qui s'appelait Ampère iMoto,
oui.
Qui nous a permis à prendre de l'expérience finalement et à voilà, mettre en œuvre la partie technique et technologique pour vraiment nous approprier la technologie et pour voilà.
Parce que sur ce type de véhicule, ce dont vous nous avez parlé, que ce soit les motos, les quads ou les transfos, cette technologie d'électrification n'existait pas vraiment avant.
Non, c'est quand même plutôt récent, effectivement.
Oui, donc c'est un vrai travail de recherche et développement, en fait.
Ouais, au début, surtout, ça a été un vrai travail d'appropriation de la technologie.
D'accord.
D'acculturation à la technologie. Et ensuite, il y a tout le travail de dimensionnement, de sourcing et de sélection des composants à utiliser.
Oui.
Parce que les composants qu'on utilise pour une motocross et un karting sont assez similaires, mais entre... une moto, un karting et une application stationnaire, c'est pas du tout la même typologie de composants. Les contraintes ne sont pas les mêmes. les prix de revente ne sont pas les mêmes, donc il faut vraiment adapter, et puis même les cycles de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Donc il faut vraiment adapter l'utilisation et la motorisation qui va derrière, quoi.
D'accord. Je reviens un petit peu à cette activité commerciale sur Mobishop. Vous sentez, vous, cet engouement de la population, des Français, vers l'électrique et ces déplacements dits plus doux?
Alors, je la ressens déjà depuis un certain temps, mais c'est surtout l'analogie à l'automobile, moi, qui m'a fait faire un petit déclic.
D'accord.
Dans mon esprit. C'est l'accélération de la vente des véhicules électriques, des voitures électriques.
Oui.
L'année zéro, c'est à peu près 2020. Oui. Avant 2020, il n'y avait quasiment pas de voitures électriques qui se vendaient. Et à partir de 2020, il y a eu une réelle accélération. Et aujourd'hui, ça représente une part non négligeable du marché français, mais aussi du marché mondial. Donc, et en fait, partant de ce constat, je me suis dit que... Alors ça, c'était le premier constat. Et le second constat, c'était... on voit le nombre d'utilisateurs quotidiens de tout ce qui est micro-mobilité, que ce soit les trottinettes ou les vélos électriques. Et en fait, c'est un marché en croissance, mais exponentielle. Donc, partant de ces deux constats, je me suis dit que sur l'agglomération, il y avait quelque chose à faire.
Oui.
Et c'est ce qui m'a vraiment motivé au lancement de Mobishop 58, quoi.
D'accord. Le développement sur justement le territoire des pistes cyclables et des zones en mobilité douce, est-ce que ça fait partie pour vous des facteurs qui ont favorisé aussi cette transition, ou c'est quand même plus sécurisant ou pas?
Oui, alors je dirais que c'est un peu un cercle vertueux.
Oui.
S'il n'y a pas d'utilisateurs, il n'y a pas d'infrastructures adaptées. Et lorsque les infrastructures sont adaptées, ça accélère finalement le développement et l'appropriation des utilisateurs.
D'accord.
Donc je pense que les deux facteurs sont assez corrélés.
Quelle serait selon vous la prochaine étape, ou ce qu'il manque pour que justement ce cercle vertueux puisse prendre toute sa place?
Localement, de l'acceptation.
C'est-à-dire,
je pense que le territoire nivernais n'est pas forcément le plus Les nivernais sont pas forcément les gens qui sont les plus moteurs, en tout cas sur l'appropriation des nouvelles technologies. On voit, je pense qu'il y a des territoires où les gens sont plus dynamiques sur ce genre de secteur.
Est-ce que c'est pas dû au fait qu'on a quand même un territoire très rural et que, en fait, quand on parle des micro-mobilités, ça reste à l'échelle de l'agglomération?
Exactement.
Et que lorsque l'on est dans d'autres secteurs...
Si
je parle du Morvan, par exemple, faire le Morvan-Nevers en trottinette électrique, je pense qu'il faut quand même avoir très, 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 très envie.
Ah, je suis complètement d'accord avec ce constat-là. Si, c'est évident, c'est une certitude, finalement, que c'est l'un des facteurs.
Oui.
Mais même au niveau de l'agglomération, pour des urbains, finalement, qui vivent sur l'agglomération, ils ont encore ce réflexe voiture. Il y a encore, je pense... dans certains territoires ruraux comme la Nièvre, des réflexes qui sont un peu plus longs à évoluer que sur d'autres agglomérations.
De l'ultra-urbain, oui.
Ouais, exactement.
Forcément.
Mais je pense que c'est aussi un avantage, en tout cas pour nous, dans notre activité à nous. Ça nous permet de... En gros, si on valide notre concept Mobishop 58 sur un territoire comme la Nièvre, ça veut dire qu'il est transposable à peu près partout en France, quoi.
Oui, parce que j'ai cru comprendre que vous souhaitiez franchiser, en fait, ce concept.
Ouais, c'est dans notre stratégie.
Dans la stratégie.
Assez court terme, moyen terme.
Donc on teste sur un territoire comme la Nièvre qui, de par sa géographie, rend forcément un peu moins évidente ce genre d'utilisation, pour pouvoir le développer ensuite sur des territoires où ce serait plus aisé, finalement.
Ouais, je pense que, en tout cas, ça nous fera vraiment un POC validé, quoi. Si ça marche ici, ça marchera.
Ça marchera partout.
Mais ailleurs.
D'accord. Je vous propose que l'on marque une courte pause musicale et que l'on se retrouve justement pour parler d'opportunités et de l'actualité. Qu'est-ce que vous aimeriez écouter, Thomas?
Eh ben moi, je vous propose de partir sur un petit Louise Attaque. Allez, viens, je t'emmène au vent, qui fera la bonne transition avec la partie suivante.
Eh ben parfait. À tout de suite.
Le rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant. Chaque jour.
jour, vous vous connectez sur votre radio dans toute la région parce que vous savez qu'ici, il y a moins de pubs que sur toutes les autres radios. Pourquoi ? Parce que pour vous, nous avons décidé de donner la priorité à vos commerces de proximité, à vos entreprises locales et aux événements organisés dans toute votre région. Du coup, il y a moins de pubs. Beaucoup, beaucoup moins de pubs. Et à la place, c'est plus de musique, d'infos locales près de chez vous et des cadeaux. Parlez-en autour de vous.
L'invité de la rédac, jeudi 19h. L'invité de la rédac.
Cette semaine, Delphine Pinaza, directrice du Centre National du Costume et de la Scène de Moulins, pour la présentation de la nouvelle exposition sur le cabaret. À retrouver en replay sur le www.9h.fm.
Oh, 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 plongez dans la féerie de Noël avec votre magasin de proximité, Intermarché de Dorne dans la Nièvre. Participez à notre jeu captivant et remportez votre sapin de Noël exclusif offert par votre Intermarché de Dorne. Imaginez votre maison illuminée par la chaleur des lumières festives. Écoutez votre radio, répondez à nos défis amusants et ce Noël, avec Intermarché Dorne, créez des souvenirs étincelants avec votre sapin naturel. Visitez votre Intermarché de Dorne maintenant et faites briller votre saison des fêtes. Ouvert 7 jours sur 7.
Artisans, commerçants ou encore collectivités locales,
promotionnez vos activités, élargissez votre visibilité ou encore augmentez votre potentiel de visiteurs. Plus d'infos au 09 52 39 35 35.
Les déchetteries de Nevers Agglomération sont ouvertes jusqu'au 29 février sur leurs horaires divers. À Nevers, la déchetterie du Pré-Poitiers est ouverte les lundis, mercredis et samedis de 9h30 à 17h30. Les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h30. La déchetterie de l'impasse des Taupières est ouverte du lundi au vendredi de 14h30 à 18h et les samedis de 9h à 18h. Les déchetteries mobiles de Chaluy et Pouglézo sont ouvertes les samedis et lundis de 11h à 16h selon le planning. Plus d'infos avec l'application Mon Service Déchets ou sur le site de Nevers Agglomération.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire.
Chaque mardi, retrouvez en exclusivité un acteur économique de votre territoire.
Cette semaine, Thomas Antoine d'AEV Motors. À retrouver en replay sur le www.9h.fm.
Tous les tubes.
Une radio.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais je te rappelle notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes. Je voudrais que tu te
du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes toujours avec Thomas Antoine dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Thomas, vous dirigez donc AEV Motors à Saint-Éloi. Nous avons donc dans la première partie de cette émission fait connaissance avec vos activités. J'aimerais qu'on parle justement de vos activités dans le cadre de l'actualité. On est dans une période où les crises s'enchaînent. Et est-ce que ça n'a pas été pour vous justement plutôt source d'opportunités par rapport à d'autres entreprises ? C'est pas ça le déclic finalement ?
Alors il y a ça. Alors effectivement, quand on a lancé le projet en 2020, on était en pleine période Covid.
Oui.
Donc ça a été à la fois une opportunité et une vraie prise de conscience. Et oui. En fait, je ne suis pas le seul à l'avoir eu, cette prise de conscience. Il y a énormément de gens qui ont compris qu'il fallait changer nos habitudes, notamment en termes de déplacement. Mmh. Et plus récemment, l'actualité effectivement me laisse à penser qu'on est dans le vrai, quoi. Les opportunités, en tout cas, ce qu'on fait vraiment un lien direct avec les crises qu'on traverse. Je fais référence au prix des carburants,
oui,
qui ne cesse d'augmenter. Je fais référence avec les guerres et il y a des pénuries de pas mal de choses.
Oui.
Donc si, en fait, je pense que...
C'est plutôt une opportunité.
C'est plutôt des opportunités pour nous.
Ouais. Oui. Alors, quand même, on parle effectivement des prix des carburants, on a pris conscience à la fois pendant la crise Covid, mais surtout avec la guerre en Ukraine, de la dépendance de notre pays aux approvisionnements étrangers, même si on en avait conscience, on s'est bien rendu compte à quel point ça fragilisait notre pays. On parle aujourd'hui beaucoup de réindustrialisation, de souveraineté économique. Néanmoins, l'électrique est aussi soulève aussi quand même pas mal d'objections, tant d'un point de vue écologique que d'un point de vue du coût, de la rareté de certains composants. Vous qui êtes dans ce domaine toute la journée, comment vous vivez les choses et comment ça se passe ?
Alors déjà, on va commencer par répondre à la problématique du recyclage.
Oui.
Il faut savoir qu'une batterie, c'est composée de plusieurs dizaines, voire centaines de cellules, et chacune de ces cellules est très très bien recyclable. Ce qui fait qu'on peut faire de nouvelles cellules à partir d'anciennes.
Et d'accord, ça c'est important
ça, c'est important de noter, effectivement, sans omettre la problématique de l'extraction des matières premières, et là, vous l'avez soulevé, c'est tout à fait vrai, mais qui est finalement un problème assez similaire à celui du pétrole. De toute manière, la vraie réponse, si on voulait une planète totalement verte, ce serait de rester chez soi.
Le vélo, mais...
Et encore. Ouais, le vélo sans assistance, et du coup, on ne va pas très loin, quoi.
Ça dépend, certains vont loin.
Certains vont loin.
Vous et moi, non.
Mais la masse des gens ne vont pas très très loin. Donc la problématique de recyclage en est une. Il y a une vraie filière qui est en train, oui, de se structurer en France, avec des acteurs qui se sont positionnés, avec des procédés adaptés qui permettent un vrai recyclage. La vraie problématique aujourd'hui, finalement, c'est la collecte de ces batteries. C'est suivre
le cycle du produit et la récupération.
Exactement, la collecter en fin de vie.
D'accord.
Pour la faire suivre sur le cycle de recyclage.
Alors, vous abordez aussi la durabilité et le fait que l'on peut retrouver des composants que l'on peut recycler. Ce qui veut dire qu'en termes de durabilité, les solutions que vous proposez sont finalement des solutions durables, c'est-à-dire qu'en termes de réparabilité, on peut avoir un cercle plus vertueux finalement qu'avec d'autres modes de transport.
En tout cas, nous, on a fait le pari de pas vendre des produits entrée de gamme, et de plus, autant que possible, vendre des marques françaises avec une vraie stratégie de forte réparabilité.
D'accord.
D'avoir des pièces de réparation, d'avoir un vrai SAV. Et
d'accord,
ça, c'est vraiment notre positionnement par rapport à nos concurrents directs, qui sont finalement les... Je ne sais pas si je peux les citer, mais par exemple la Fnac ou...
Oui, les grandes surfaces, les grandes enseignes.
Ouais, qui vendent aussi de la mobilité électrique, mais qui, eux, ne portent pas, je pense, suffisamment attention à cette problématique de réparation. Et on a plein de clients qui viennent chez Mobishop 58 avec des trottinettes ou des vélos en panne, et qui nous disent, est-ce que vous pouvez la réparer? Alors dans l'absolu, la capacité technique on l'a, mais il y a la vraie problématique de, est-ce qu'on sait trouver la pièce pour la réparer?
D'accord.
Et il s'avère que la plupart du temps, non. On sait identifier le problème, on sait d'où vient le problème, mais quand on veut la pièce, on ne sait pas la trouver.
Alors, parce que ce sont des marques étrangères où il n'y a pas ce critère de réparabilité, pardon ?
Oui, en grande partie, c'est ça la problématique.
Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut être attentif justement aux fournisseurs et s'assurer juste de cette possibilité d'avoir des pièces de rechange s'il y a un problème.
Alors là, je vais mettre à la place du client final. Oui. Le client final a... Et je comprends tout à fait la problématique du coût du produit.
Bien sûr.
Mais la plupart du temps, quand on achète un prix et pas une qualité, on se retrouve avec des ennuis, notamment quand il y a un problème de SAV. Alors effectivement, nous, les produits que nous vendons sont certes un peu plus chers, mais avec une vraie stratégie, une vraie capacité de SAV derrière. Donc c'est vraiment un choix à faire en tant que consommateur. Est-ce que j'achète un prix ou est-ce que j'achète un produit?
Oui, c'est ce qu'on entend souvent. C'est qu'on peut acheter un prix, mais qui, sur le moyen terme, se révélera être une moins bonne affaire parce que, justement, il faudra recycler un produit qui n'est pas réparable et des fois, qui durera moins longtemps.
Des fois, c'est très court terme. Il y a des gens qui achètent des trottinettes et qui, quelques mois après, des fois, 2-3 mois après, sont déjà en panne. Et parce qu'on ne sait pas avoir la pièce, et ben finalement, cette trottinette finit...
à la casse.
Dans le garage, dans un coin, parce qu'elle n'est plus utilisable, parce que c'est compliqué d'avoir la pièce.
L'écart de prix, il est important entre du plutôt haut de gamme et pas de l'entrée de gamme, et avec réparabilité, c'est à peu près quel pourcentage?
Si on parle à gamme équivalente, entre le bas de gamme et le haut de gamme que nous, on distribue, on est sur un facteur 2.
Ah oui, quand même, oui.
Ouais.
Oui, donc en ces temps de crise où tout le monde compte ses sous, on peut aussi comprendre que l'utilisateur final, à un moment donné, soit attentif au prix d'achat.
Tout à fait.
Et passe peut-être sur un second plan la durabilité du produit en termes d'usage.
Je le comprends tout à fait. Je me mets également à la place du consommateur. Il faut vraiment... c'est un pari, en fait. Si on n'a pas de problème avec sa trottinette entrée de gamme à 300 €, tout va bien. Mmh. Mais si on a un problème très vite et finalement cette trottinette à 300 €, c'est 300 € jetés en l'air,
oui,
il va
aller
mieux acheter
celle
à 600 et en acheter qu'une à la place d'en acheter deux.
Oui, parce que de toute façon, il faudra remettre 300 € si on a décidé de se déplacer en trottinette électrique. Chez vous, on trouve justement ces trottinettes électriques, entre autres. Est-ce que vous allez jusqu'au bout des choses? Est-ce que vous vendez aussi les équipements de protection des pilotes? Parce que la conductrice que je suis râle souvent après les personnes qui se déplacent en trottinette électrique sans aucun casque, sans aucune visibilité parfois. Or, en ce moment, il fait nuit, très, très, très tôt. Quand il n'y a pas deux personnes sur la trottinette prévue pour une seule. Est-ce que j'ai l'impression parfois, peut-être suis-je complètement à côté de la plaque, mais j'ai l'impression parfois que dans cet élan de développement des mobilités plus douces, on oublie l'aspect sécurité, on oublie de sensibiliser les usagers au fait que sur une trottinette électrique, on n'a pas du tout de protection. On a le même souci avec les cyclistes, mais le casque et d'autres protections sont obligatoires, enfin, sont en tout cas indispensables.
Vivement conseillé. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on propose les équipements complémentaires? Pas encore.
Pas encore.
C'est pas qu'on ne veut pas, c'est que...
C'est un autre métier?
Non, ça fait partie de notre métier, mais c'est aussi une question de capacité financière.
D'accord, pour le développer.
C'est du stock finalement à bloquer un certain
Bien
temps.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, on est trop jeune et trop fragile pour se le permettre.
Oui.
Mais ça fait vraiment partie de la diversification qu'on va opérer assez prochainement. Et alors, il y a une législation qui, effectivement, n'est pas très, très connue, notamment en termes d'équipement, mais également en termes d'utilisation. Le casque n'est pas obligatoire, mais vivement conseillé. Encore une fois, je parlais de juste il y a quelques minutes de qualité. Les trottinettes qu'on vend, elles sont équipées de phares, de témoins de freinage et tout, qui permettent d'être, alors pas forcément
un peu mieux vu.
Voilà.
Et de mieux voir.
Mieux voir, peut-être pas, mais d'être vu.
Oui.
Et donc, ça fait vraiment référence avec ce qu'on disait en termes de, bah, si on met un peu plus cher, et ben on a quelques services supplémentaires. Et sinon, j'en reviens notamment à l'assurance, à savoir que il faut être assuré pour utiliser une trottinette électrique. Alors la responsabilité civile de la couverture maison
oui.
fait a priori la plupart du temps l'affaire. Mais c'est des choses à avoir en tête effectivement. Nous, on est adhérents d'une une association qui s'appelle la FFPMM, Fédération Française pour la Micromobilité. FFPMM, bon, deuxième.
Oui, d'accord.
Et donc du coup, on se tient régulièrement à jour de voilà de l'évolution des réglementations. Et en fait, c'est ça a été un petit peu comme tout nouveau marché finalement.
Oui.
Les constructeurs ont un petit peu fait comme ils l'entendaient parce qu'il n'y avait pas de réglementation, mais les instances gouvernementales ont commencé à bien réguler tout ça.
Forcément, oui.
Ouais, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer sur quelque chose d'assez riche, quoi.
Voilà, oui, parce que c'est pas parce qu'on parle de micro-mobilité qu'il n'y a pas de danger pour l'usager.
Non.
Bien au contraire, parce qu'il n'y a pas de protection, de carrosserie.
Exactement.
C'est comme tous les deux roues, hein. Et autant on est très insistant sur les motos, autant on l'est beaucoup moins à la fois sur les vélos et sur les trottinettes électriques. Je vous propose que nous marquions une seconde pause musicale avant de nous retrouver pour parler de vous et de votre parcours. Que voulez-vous écouter cette fois-ci ?
Alors en transition avec la prochaine partie, je vous propose d'écouter Avicii The Nights, qui est une musique qui me tient à cœur et qui, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a boosté dans mon parcours.
Très bien, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
Les rendez-vous de l'économie du territoire, retour dans un instant.
Upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day for me.
du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous voici de retour pour la dernière partie des rendez-vous de l'économie du territoire de ce soir, toujours avec Thomas Antoine. Et cette partie, on la consacre en général à vous, Thomas. J'aimerais déjà que vous nous disiez d'où vous êtes originaire, parce que ce petit accent est loin d'être l'accent du Morvan. Donc, vous nous venez d'où ?
Alors, j'ai l'habitude de faire la petite blague de dire que je viens de Belgique.
Oui, mais ça ne marche
ça
pas
ne
non
marche
plus.
Pas,
hein. C'est pas le même. Hein.
Non, pas vraiment. Je viens des Gorges du Verdon. Je suis né à Manosque,
oui.
Dans une formidable et très belle région.
Oui.
Et puis, mon parcours a fait que je suis arrivé ici dans la Nièvre pour faire l'ISAT.
Donc, vous êtes issu de l'ISAT, effectivement.
Ouais, diplômé en 2019,
oui.
Effectivement.
Notre école d'ingénieurs qu'on aime bien.
Ouais. Plutôt apprécié.
Et puis avec des jeunes qui font de jolies choses derrière. Vous rêviez de faire quoi quand vous étiez petit ? L'électrification des moteurs ?
Non, pas tout à fait. Mais par contre, ça a vraiment un lien avec ce que je fais aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est fabuleux.
Ah, c'est bien ça.
Je fais du motocross depuis que je suis tout petit et je rêvais d'être un grand pilote professionnel.
D'accord.
Alors, la vie a fait que j'en avais pas les capacités. Mm-hmm. Mais ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, je suis constructeur de motocross et donc du coup, ben, je vis quand même une partie de mon rêve, quoi. Donc
ça, c'est cette passion, en fait, toujours
ouais.
là.
D'accord. Ouais, toujours. Ça, je pense qu'elle sera là pour toujours. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça me permet de rencontrer ben, mes idoles aussi. Du coup,
oui.
Des gens que je voyais de loin
et qui viennent tester vos motos, vos moteurs.
Alors pas encore tout à fait, mais en tout cas avec des gens avec qui j'ai l'occasion de discuter, voilà, dont on partage une passion commune,
oui.
dont on partage la vision. La plupart du temps, je fais référence notamment à Sébastien Tortelli,
oui.
qui est l'un des plus grands champions français et que j'ai eu l'occasion de rencontrer en début d'année là. C'était un gars que je voyais à la télé et on partage la même passion. Et, alors lui, il travaille pour mon concurrent, donc c'est un peu embêtant.
Ça reste quelqu'un de bien quand
ça
même.
Ça reste une excellente personne, hyper accessible. Et vraiment, voilà, avec cette volonté de développer la motocross électrique pour favoriser son développement global.
Alors justement, on ne s'est pas trop attardé sur les deux précédentes parties de l'émission, sur le développement de la motocross électrique. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux passionnés de motocross pour les convaincre de passer du moteur thermique au moteur électrique ? Quels sont les avantages selon vous ?
Déjà la réduction des nuisances sonores.
Donc moins de soucis avec les voisins.
Avec les voisins, c'est clair. Et beaucoup de gens que je peux rencontrer me disent « Oui, mais une motocross sans bruit, c'est chiant ». Et moi, je leur réponds « Oui, mais si les circuits ferment tous et qu'on ne peut plus rouler à cause du bruit, ce sera d'autant plus chiant ». Et
oui.
L'avantage de la motocross électrique, c'est de pouvoir rouler tout le temps, partout, à 10 mètres des maisons, sans les importuner, quoi.
Oui,
donc ça c'est un vrai avantage.
D'accord.
L'autre gros avantage, c'est la réduction du temps d'entretien et du coût d'entretien. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, parmi les vrais, comment dire, les vrais
soucis. Non.
C'est pas le mot que je cherche. Dans la partie 2, on parlait des.
On parlait de la durabilité et du coût et de la partie.
Des opportunités.
Voilà, des opportunités, pardon.
Donc, parmi les opportunités, pour nous, ça a été vraiment aussi cette problématique de. Finalement, de l'augmentation du coût de la vie.
Oui.
Et donc, entretenir une voiture, c'est cher.
Oui.
Se déplacer, c'est cher. Alors que l'électromobilité, ça permet de se déplacer, alors en tout cas localement. Pour moins cher, démarrer sa voiture diesel pour faire 10 km, c'est juste un calvaire pour la voiture. Et ça, quand on fait des grands déplacements, c'est idéal. Mais pour des courts déplacements, ça abîme fortement la voiture. Et donc, du coup, ça augmente fortement le coût de maintenance et d'usage.
D'accord.
Et l'autre avantage, c'est que la motocross électrique, pour faire un vrai parallèle avec ça, c'est comme tous les véhicules électriques, c'est le temps d'entretien est vraiment divisé par, je sais pas, peut-être 10.
D'accord.
Et le coût par 2 ou 3. Donc,
donc on investit peut-être un peu plus à l'achat, on s'y retrouve ensuite sur un coût d'entretien qui est bien moindre.
Sur le coût d'usage et sur l'expérience utilisateur qui est nettement améliorée. La plupart des amateurs dont je fais partie, leur plaisir c'est de rouler, c'est pas de faire un piston, c'est pas de faire un jeu au soupape. Le plaisir c'est de rouler. Et donc avec les motocross électriques, on fait que brancher la prise de la moto oui. pour la recharger. On va sur la piste, on roule, et puis c'est tout.
D'accord.
Et ça, c'est génial.
Et ça, c'est génial. Et donc, les plus grands pilotes aujourd'hui regardent comment, justement, ces motocross électriques ?
Étrangement, les plus grands pilotes le regardent avec envie.
Oui.
C'est plutôt l'amateur qui la regarde avec un peu d'appréhension. C'est ça, c'est assez paradoxal, mais on voit vraiment que les performances des motocross électriques sont incroyables. Alors, il y a encore une problématique et un levier à lever, c'est un verrou à lever, c'est l'autonomie. Oui. Alors, pour les amateurs, c'est idéal. Hein. Enfin, avec les motocross, moi, à mon niveau, et je n'ai pas un niveau du dernier dépitre, j'arrive à rouler quasiment une heure, voire plus d'une heure. Donc ça suffit largement, 80 ou 90% des pilotes. Donc il est évident que le championnat du monde en motocross électrique, c'est peut-être pas pour demain, ou alors tel qu'on le connaît, c'est pas pour demain. Peut-être il faudra faire une catégorie spécialement dédiée à l'électrique, avec des durées de manche un peu plus courtes. Donc ça c'est tout à fait, en tout cas à court terme. À moyen terme, on verra ce que la technologie nous permet. Mais les performances sont tellement dingues que c'est fou.
On sent que vous y prenez plaisir en tout cas.
Ouais, clairement oui. Et pour tout vous dire, donc moi je fais de la moto depuis que j'ai 5 ans.
Oui. Ah oui, quand même, ouais. Vraiment tout petit.
Ouais, c'est clair. Ouais, mon père m'a mis sur une moto avant de savoir faire du vélo. Et ça s'est très bien passé.
Ça s'est bien passé.
Ça s'est super bien passé.
Pour la moto, pour le vélo, ça
Ouais,
nickel.
Du coup, le vélo, ça va, maintenant je maîtrise. et du coup, j'ai fait quasiment toute ma vie sur une motocross thermique, sauf ces 3 dernières années, et j'ai plus envie. Je prends beaucoup moins de plaisir. C'est tellement plus facile de rouler en électrique, et en fait, on est tellement plus rapide que... J'ai encore une moto thermique, mais ça fait... Bon, elle est juste là pour faire joli, quoi.
Elle est juste là pour faire joli. Il nous reste un peu moins de 2 minutes sur cette émission. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire déjà sur vos envies et vos rêves pour l'avenir ?
J'ai envie que tout ce que j'ai initié se développe et réussisse, parce que ce serait un bel aboutissement. Voilà, malgré les difficultés, malgré des moments difficiles, tous les entrepreneurs sont confrontés à des difficultés.
Oui, ça je vous confirme, c'est le sort de tout chef d'entreprise.
Ouais, et des difficultés, enfin des interactions entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui font que ben voilà, ça se complique. Mm-hmm. Mais malgré ça, j'ai vraiment envie que ça réussisse, et parce que j'y crois et parce que je pense que c'est bien pour l'ensemble de la société aussi, finalement.
D'accord.
Alors, tout ça, c'est...
Et qu'est-ce que vous aimeriez dire, justement, aux jeunes qui s'interrogent sur le fait de lancer leur activité, de développer de nouvelles choses ? Et on va en rester là après.
Y croire, bien réfléchir son projet, bien réfléchir son produit, ne pas lancer quelque chose pour lancer quelque chose, mais vraiment bien s'informer, bien se renseigner et y croire, y aller à fond, en fait.
Y aller à fond.
Vraiment y aller à fond, parce que voilà, on parlait de d'écueils sur la vie et de difficultés. Ben malgré les difficultés, malgré tout, y aller, y croire tout le temps. Et même si on perd des gens en route, y croire.
Toujours y croire. Merci en tout cas pour ces derniers mots et pour le reste de l'émission aussi, mais ces derniers mots d'encouragement. Merci Thomas-Antoine d'avoir été notre invité de ce jour. Merci à nos auditeurs également pour leur fidélité. Je vous dis à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci, au revoir.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, mardi 19h.